Donc je disais que la crise que nous traversons aujourd'hui, c'est une crise pas seulement sanitaire, mais aussi culturelle et identitaire, où le modèle démocratique et républicain qui sont les nôtres sont fortement remis en question, où l'universalité des droits humains est remise en cause pour être supplantée par le racialisme et ses déclinaisons que sont l'intersectionnalité, que sont aussi l'indigénisme, qui veulent instituer la différenciation des droits selon la couleur de peau, la culture ou la religion, ou même selon l'intégrisme religieux. L'intégrisme musulman suscite un grand attrait pour les relativistes. L'islamisme a nourri le racialisme et l'indigénisme, qui sont eux-mêmes les partenaires de l'islamisme. Alors on verra hein, pourquoi et comment, et on verra aussi que grâce à eux, et notamment des associations, des élus locaux et nationaux, l'islamisme politique a pu élargir ses marges de manœuvre pour se développer. Alors, j'ai prévu, moi, mon intervention en deux temps, hein, la première, donc environ 25 minutes, et c'est là où je vais poser le contexte, rappeler l'historique, exposer quelques concepts pour savoir d'où on parle et de qui on parle. Parce que si on veut comprendre les stratégies, les méthodes de l'islamisme politique et de ses diverses alliances, il faut d'abord savoir exactement de quoi on parle et savoir identifier les acteurs. Et ensuite, par nos échanges, on abordera des exemples concrets, beaucoup plus concrets. Et nous verrons ensemble si le projet de loi confortant, je cite, le respect des principes républicains, peut être un rempart efficace. Alors, j'ai été témoin, hein, effectivement, de la montée de l'islamisme dans les années 90, en France et au Maghreb. Et les corps et la tête des femmes commençaient à se couvrir à mesure que l'islamisme progressait. Je mesurais chaque jour un peu plus l'emprise de cet intégrisme religieux qui devenait une norme à ne pas remettre en question parce qu'il fallait se distinguer de ces Français, entre guillemets, qui nous rejetaient. L'apparition du sexisme du voile comme réflexe identitaire en était le stigmate visible. Des prédicateurs du Maghreb, de Turquie, étaient venus nous expliquer à nous ce qui est censé être l'islam, et mon premier souvenir de ça remonte à 1990. L'échec de la marche pour l'égalité contre le racisme en 1983, plus connue sous le nom de marche des beurs, en y ajoutant la crise économique de l'époque qui touchait les quartiers de plein fouet, ben ça a permis aux islamistes, dans les années qui ont suivi, d'avoir des oreilles plus attentives. Ils venaient nous dire à nous que la marche n'a rien donné, parce qu'on ne sera jamais français à part entière. On est d'abord et avant tout des musulmans. La religion est présentée comme une identité de substitution. La situation internationale a fini par faire exploser le phénomène. Il y avait eu la révolution iranienne qui avait décomplexé les islamistes du monde entier. La fin de la guerre froide et de l'idéal d'une internationale communiste a ensuite libéré le rêve d'une internationale islamiste. La guerre civile en Algérie, entre les islamistes et le pouvoir militaire, a aussi eu un impact certain en France. Et là, une nouvelle vague de réfugiés islamistes ont mis leurs compétences, si je puis dire, à profit pour faire du prosélytisme dans les quartiers populaires. Ça se faisait concrètement dans les salles de prière, bien sûr, mais surtout ailleurs. Des livres, des cassettes vidéo, des cassettes audio étaient largement vendus sur les marchés, proposés par des associations et des librairies dites islamiques, en réalité islamistes, sans compter, bien sûr, les conférences. Nombre de ces livres étaient et sont toujours publiés par les éditions Tawhid, également créées dans les années 90. Ces éditions sont installées en banlieue lyonnaise. Leur proximité géographique avec Grenoble facilite les contacts et les échanges avec les islamistes du Rhône, qui eux-mêmes sont en étroit lien avec le centre islamique de Genève qui est tout proche. Ce centre a été créé par Saïd Ramadan, père de Tariq Ramadan et de Annie Ramadan. Saïd Ramadan est un membre important de la confrérie des frères musulmans. Il en était un des représentants en Europe. Résultat, Tariq Ramadan, qui vivait à Genève et dont de nombreux livres et cassettes audio étaient aussi publiés chez Tawhid, avait un succès fou à Grenoble. Il y avait donné plusieurs conférences, même vraiment plusieurs conférences. Que ce soit à Lille ou à Roubaix, etc., et bien sûr la région parisienne, tous connaissent des phénomènes similaires. Par leur situation géographique qui est excentrée, l'ouest de la France est assez épargné par l'islamisme. Il faut remonter vers le nord, qui est plus accessible de Paris, pour voir une installation durable. C'est le cas au Havre. Le groupe le plus connu est Havre de Savoir. C'est une des associations frères musulmans les plus importantes de France. Tout ça avait aussi été rendu possible par la légalisation en 1981 de la création d'associations par des résidents étrangers. Il n'était plus obligé de passer par une autorisation du ministère de l'Intérieur avant toute création. Et ça, c'était une avancée positive. Mais le revers, c'est que ça a permis à des islamistes étrangers de créer leurs associations. Et grâce à cette loi et à l'espoir suscité par la révolution iranienne, l'UOIF a été créé en 1983. L'UOIF, c'est l'Union des organisations islamiques de France, qui est la branche française des Frères musulmans. Enfin, il ne faut pas non plus négliger le rôle des chaînes religieuses satellitaires du Moyen-Orient, qui là encore ont connu leur essor dans les années 90. N'oublions pas non plus, par exemple, Al Jazeera, la chaîne qatari, qui promeut un islam politique et identitaire et qui est née en 1996. Tout ça explique en grande partie pourquoi l'islam s'est plus rapidement développé dans nos quartiers dans les années 90, et non pas à travers un islam dit des Lumières, mais à travers des prédicateurs, tous quasiment venus de l'étranger, aussi extrémistes les uns que les autres. Et comme toujours, par leur patriarcat et leur obsession sexuelle, les corps des femmes étaient leur première cible. La floraison des voiles sera le marqueur visible de leur succès. Depuis les indépendances et la forte immigration économique, puis de regroupement familial dans l'Hexagone, les pays d'origine ont tout fait pour garder un contrôle ou au moins un droit de regard sur leurs émigrés, notamment à travers des associations culturelles, etc., et y compris dans l'organisation du culte. Jusque dans les années 90, les pays du Maghreb et la Turquie contrôlaient la quasi-totalité des lieux de culte et plusieurs associations, parce que ce sont des outils importants de leur politique intérieure et de leur politique étrangère. Les rares mosquées et salles de prière se partageaient selon les pays d'origine. L'apparition de l'islamisme dans les années 80 a marqué le début de l'érosion de l'influence étatique du Maghreb. La répartition des lieux de culte n'allait plus seulement se faire selon les pays, ils allaient aussi être partagés, et de plus en plus, selon les courants islamistes. Telle salle de prière pouvait être contrôlée par le Maroc, telle autre par l'Algérie, telle autre par des salafistes ou bien une autre par des frères musulmans, etc. Toutes ces chapelles, si je puis dire, mènent une véritable lutte pour ravir des lieux de culte aux autres. Alors, ces contrôles étatiques, ce qu'on appelle l'islam consulaire, ont commencé aussi à s'effriter par l'émancipation lente des populations concernées. Les enfants des immigrés qui sont nés en France avaient peu de liens avec les pays d'origine de leurs parents. Une fois adultes, les consulats ont eu moins de prise sur eux. Ça facilita aussi le transfert d'influence vers l'islamisme pour certaines mosquées. Mais même l'islam consulaire est touché par l'extrémisme. Le Maroc, par exemple, a connu une poussée des frères musulmans et des salafistes, jusque dans au sein du gouvernement. Et ça se ressent donc aussi dans le choix des imams qui sont envoyés en France. Pareil pour la Turquie, où là, en plus, il faut rajouter l'aspect impérialiste de l'AKP et d'Erdogan. Il veut être reconnu comme le représentant et le défenseur des musulmans dont la Turquie serait le cœur battant. Bref, il veut faire renaître l'Empire ottoman de ses cendres. Par l'addition de tous ces éléments, l'islam est passé du statut de religion à celui d'identité face à cette république qui ne reconnaissait pas tous ses enfants. Ça explique la montée du religieux dans sa forme intégriste et le développement, encore une fois, je le répète parce que c'est important, de son symbole visible, sexiste, politique et identitaire qu'est le voile. Ce n'est donc pas un hasard que le travail de fond mené par les islamistes a été visible pour la première fois à travers la première affaire de voile à l'école qui eut lieu en 1989 dans un collège de Creil. Alors, toute cette histoire a permis l'émergence d'une nouvelle génération de militants islamistes. Et cette fois, ils sont bien français. Ils connaissent et ils maîtrisent les codes de la culture française. Les offensives se font plus fines, et très souvent par leur arme de prédilection, toujours la même, le sexisme du voile. C'était le cas à l'école, mais ces offensives ont été bloquées par la loi de mars 2004. Mais comme les islamistes ne s'avouent pas vaincus, ils tentent de passer par la fenêtre, à travers les accompagnatrices de sorties scolaires, grâce au flou juridique et bien sûr, grâce au soutien qui leur est apporté par une partie de la gauche. Mais les offensives se font aussi sur la remise en cause du sapin de Noël, par exemple, dans les écoles, au nom de la laïcité, ce qui n'a pourtant rien à voir, tout en demandant des aménagements pour le ramadan et l'Aïd au nom du respect de la liberté religieuse. Pour eux, la laïcité se réduit uniquement à la liberté religieuse. Au fil du temps, les musulmans qui refusent l'islamisme ont été abandonnés par une partie de la gauche, et aussi par des élus locaux de droite, au profit de leurs représentants autoproclamés d'extrême droite religieuse qui militent pour l'obscurantisme et la politisation de l'islam. Depuis plusieurs années, on est pris en étau. Je me souviens, dans les années 80, on avait face à nous l'extrême droite, les skinheads et les bougnous, le rentre chez toi, sale arabe, on en a mangé. À partir des années 90, on a été pris en étau, de l'autre côté, par l'extrême droite musulmane, c'est-à-dire les islamistes. À partir des années 2000, est venu se greffer une troisième mâchoire, qui est une partie de la gauche, qui est venue soutenir et s'allier aux islamistes au détriment des citoyens français de culture ou de confession musulmane qui, eux, préfèrent se reconnaître dans la République et souhaitent garder leur islamité pour leur intimité. On a été abandonnés par ceux et celles de cette frange de la gauche qui sont censés nous défendre et nous représenter. La France insoumise, Europe Écologie Les Verts et surtout le NPA ont fait ce choix. Dans le milieu associatif, l'exemple le plus abouti de l'alliance entre une partie de la gauche et de l'extrême droite musulmane, c'est Alliance Citoyenne. Dès sa création, cette association était liée aux Frères musulmans. Ces actions burkini à Grenoble sont l'héritage de l'évolution politico-sexiste qui existe dans les quartiers populaires et que j'avais perçu dès la fin des années 90 dans le milieu socio-culturel où je travaillais et aussi dans mes interventions en milieu scolaire au milieu des années 2000 et puis dès le début des années 90 dans ma vie privée. Pour bien comprendre le phénomène, il faut savoir distinguer l'islamisme de l'islam et il faut ensuite maîtriser la sémantique. Si le sexisme du voile est l'outil matériel central de l'islamisme politique, la sémantique en est la sève. C'est par la judicieuse instrumentalisation et le détournement de la sémantique que l'islamisme peut jouer la carte à la fois victimaire et totalitaire. Déjà, la plupart des gens, des élus et même des intellectuels, parlent d'islamisme sans savoir ce que ça veut dire précisément. L'expression « islamisme radical » est une des erreurs les plus fréquemment prononcées. C'est un pléonasme. L'islamisme est par définition radical. Est-ce qu'on a déjà entendu l'expression « nazisme radical » ou « fascisme radical » sous-entendant qu'il y aurait un nazisme et un fascisme modéré, donc acceptable? Alors, je pourrais revenir de façon plus détaillée sur la définition de l'islamisme s'il y a des questions là-dessus. Mais rapidement, je peux déjà dire que l'islamisme est le synonyme d'intégrisme musulman. Cet intégrisme se divise en deux groupes. Il y a les islamistes djihadistes et les islamistes politiques. Leur but final est le même. Leur vision de l'islam est la même. Leurs références théologiques sont les mêmes. Deux choses seulement les différencient. La méthode et la temporalité. Si en termes de dégâts, de morts et de traumatismes, les djihadistes sont les plus spectaculaires, ils sont aussi les plus minoritaires. Les plus nombreux ne veulent pas mener d'actions violentes. Et cela se divise en deux catégories. Les salafistes, ce qu'on appelle les quiétistes, et les néo-salafistes, on y reviendra peut-être. Et puis de l'autre côté, vous avez les frères musulmans. Les salafistes sont plutôt des bourrins. Ils veulent tout et maintenant. C'est pour ça que les salafistes djihadistes choisissent la violence. Mais les quiétistes, eux, sont aussi des bourrins, non pas dans l'action physique, mais dans leur façon de raisonner et de défendre leur vision de l'islam. Ils n'ont pas de stratégie politique particulière. C'est donc, par exemple, de la bouche des salafistes français qu'on entend les propos les plus spectaculaires sur les femmes et la justification réelle du voile. Ce sont aussi eux qui rejettent le burkini parce qu'ils désirent la non-mixité immédiatement. Ils ne sont donc pas des interlocuteurs pour les pouvoirs publics, ni des partenaires de mouvements et associations de gauche. La menace qu'ils représentent est réelle. Mais, comme elle est facilement identifiée et identifiable, elle est sans commune mesure avec celle des frères musulmans. Contrairement aux salafistes, les frères musulmans sont subtils. Ils ont une stratégie politique et elle est basée sur plusieurs pieds. D'abord, ne pas rejeter la société, comme les salafistes, mais au contraire, s'y investir pour la changer de l'intérieur. Là encore, le rôle des femmes, par l'obsession sexuelle de ces islamistes, est primordial. Le voile doit être visible partout pour habituer la population. Là, ce n'est pas une interprétation de ma part. Là, je retranscris ce qu'ils disent dans leurs prêches et dans leurs livres. Ce n'est qu'une fois bien installé dans le paysage que les autres revendications pourront suivre. Un agenda qui est souvent exprimé, comme j'avais pu directement l'entendre, par exemple, lors d'une conférence islamiste qui avait été donnée à Grenoble en 2005, mais aussi à travers nombre de leurs écrits. Et cette méthode des petits pas va de pair avec un autre pied, qui est la patience. Les frères musulmans estiment, à raison, que le temps joue en leur faveur. Ils ont conscience qu'il est illusoire de vouloir tout changer à court terme. Alors, ils posent les jalons pour les générations suivantes, que ce soit en politique, dans l'enseignement, les syndicats, le monde associatif, la santé, le social, etc., etc. Ils jouent de leur citoyenneté, ils instrumentalisent la justice et les valeurs républicaines pour les retourner peu à peu contre la République. Ainsi anesthésiés par la stratégie victimaire des islamistes, une partie de la population montre peu de résistance par souci de tolérance, quand l'autre partie, qui est elle effrayée par ces avancées, bascule vers l'extrême droite nationaliste. La prochaine génération n'aura plus qu'à récolter la moisson en supprimant la loi de mars 2004 ou même en modifiant la loi de 1905 pour respecter la loi de 1905 selon eux. C'est pas une boutade, c'est réel. C'était dans un des programmes politiques de l'Union des démocrates musulmans de français, un parti politique islamiste. Le CCIF, qui a été dissous est le fer de lance de ce clivage par étapes de la société en usant de ce que j'ai nommé la rhétorique d'inversion. Par exemple, le CCIF se déclare pour le vivre ensemble, se déclare être meilleur défenseur de la laïcité que les associations et les militants laïcs, etc. Les actions burkini d'Alliance citoyenne à Grenoble, soutenues par le CCIF, sont un exemple. Dans l'impossibilité de modifier les règlements intérieurs des piscines pour autoriser un apartheid sexuel par des plages horaires séparant hommes et femmes, des islamistes militent pour l'autorisation du burkini. Une fois autorisé et bien installé dans le paysage, et qu'on aura aussi mis des petits burkinis aux petites filles pour leur libre choix, comme ils disent, les demandes de créneaux horaires non mixtes seront plus facilement prises en compte au bout de quelques années. Pour que tout ça fonctionne, les frères musulmans doivent faire des concessions dans un premier temps. En France, ils évitent, tant que faire se peut, de se prononcer, par exemple, sur l'homosexualité. Alors, ils le font en interne, dans leurs conférences, mais quand ils sont avec leurs partenaires, qui ne sont pas musulmans, ils disent rien. Ils acceptent même le soutien d'homosexuels pour rétablir le délit de blasphème grâce au concept d'islamophobie, qui est la base de leur stratégie victimaire. Et bien sûr, l'inverse n'est pas vrai. Aucun islamiste ne soutient les homosexuels. Et en plus, le CCIF, qui était soutenu, parce que maintenant on peut en parler au passé, par les plus célèbres homophobes islamistes francophones, sans que ça n'émeuve les adhérents non musulmans de cette association. Et ce sont ces, entre guillemets, ces idiots utiles qui rendent l'islamisme si dangereux. Sans eux, les islamistes avanceraient beaucoup moins bien. Leur complaisance est rendue possible grâce au concept d'intersectionnalité. Alors, je pourrais en donner la définition s'il y a des questions là-dessus plus tard. Ce concept est du pain béni pour les frères musulmans. Il permet de s'engouffrer dans les luttes antiracistes en se faisant passer pour de simples musulmans éternellement persécutés, tout en rendant secondaire le féminisme. Ça permet un développement et une acceptation spectaculaire du voilement des femmes. L'évolution du planning familial et du mouvement « nous toutes » vers l'intersectionnalité en sont des exemples frappants. Les autres concessions des frères sont l'acceptation provisoire, d'un minimum de mixité, de la liberté religieuse, puisqu'ils sont minoritaires, ils n'ont pas le choix, de la loi de 1905, du salariat des femmes dans des métiers dits peu féminins selon eux, du sport féminin, de la danse, etc. Tout ça permet d'endormir une partie de la population, de faire croire que le voile n'est pas si grave que ça, contrairement aux salafistes, je le répète, les frères musulmans font tout ce qui est possible pour cacher la raison d'être sexiste et patriarcale du voile, donc ils veulent faire croire que les islamistes sont de simples musulmans pieux. Leurs concessions provisoires sont perçues comme définitives, ce qui serait la preuve de leur progrès vers la modernité. Alors on banalise le voile, on en fait même une norme pour toutes les musulmanes. Et ils espèrent que ça sera un jour la norme pour toutes les femmes. Il y a d'autres critères dans la stratégie des frères musulmans, il serait trop long de les énumérer ici. Alors, que faire face à tout ça? Notre laïcité ne s'est pas construite à coup de renoncement, de poussière mise sous le tapis, de complaisance, voire de complicité souvent due à une vision condescendante, voire méprisante de la population concernée. Non, elle s'est faite par une fermeté de son principe. Les hussards noirs de la République avaient la ferme intention d'extirper les élèves de l'endoctrinement de l'Église pour qu'ils deviennent des citoyens éclairés et intellectuellement autonomes. Ils étaient aux avant-postes pour permettre la séparation du politique et du religieux. C'était possible parce que le catholicisme fait partie de la culture française depuis des siècles. La France s'est construite avec et contre le catholicisme. Les hussards noirs de la République étaient issus du monde judéo-chrétien. Ils en connaissaient les failles, les points positifs et les points négatifs. Ils étaient intellectuellement armés pour s'y confronter. Et s'y confronter sans complexe, sans la crainte d'être accusés de racisme, comme certains aujourd'hui le font quand on critique l'islamisme. Pour bouter la religion hors de l'école, ils n'avaient aucun état d'âme parce qu'ils étaient issus de cette religion et qu'ils en maîtrisaient les codes. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il faudrait avoir la même confrontation que celle du 19e siècle. Évidemment, on n'est plus à la même époque et l'histoire est aussi là pour servir de leçon. Justement, il faut donc mieux connaître l'islam et ce qui se passe au sein des milieux musulmans de notre pays. Il faut savoir décoder ce qui se passe, ce qui se fait, ce qui se dit. Et seule la connaissance peut le permettre. Les balises d'alerte construites depuis la Révolution française sont adaptées pour le catholicisme. Elles ne le sont pas pour l'islam. L'histoire, les origines géographiques et culturelles, l'évolution de cette religion rendent inopérante la plupart des balises. Les mots même utilisés n'ont pas la même définition pour les uns que pour les autres, comme les mots tolérance, respect ou liberté par exemple. Résultat, les balises ne s'allument pas quand les islamistes politiques mènent leurs offensives. Pire encore, ils réussissent non seulement à les contourner, mais aussi à les reparamétrer pour qu'elles se mettent à sonner pour bloquer les laïcs qui alertent. Elles ne sonnent pas pour tout le monde, là je parle d'une partie de la gauche, elle sonne pour une partie, ces balises reparamétrées sonnent pour une partie de la gauche qui est alliée aux islamistes. Pas toute la gauche, heureusement, et j'en fais partie. Pour activer ou désactiver ces balises, la bataille se déroule sur un terrain, je le répète, la sémantique. Tout tourne autour de certains mots-clés dont la confusion et le détournement ont entraîné les malentendus qui ont permis à l'islamisme politique de mieux avancer. Par exemple, parler d'islamophobie, au lieu de parler d'actes propres anti-musulmans. Par exemple, parler de foulard, au lieu de parler de voile, c'est pas la même chose. Parler de libre choix pour le voile, au lieu de parler de servitude volontaire. Parler de liberté religieuse et même de laïcité, etc. Je reviens sur cet exemple. La première remise en cause de la laïcité identifiée comme telle, c'est l'affaire de ce qu'on appelait les foulards de Creil en 1989 dans un collège. On a commencé à parler de foulard, pas de voile. Et certains et certaines, comme Gisèle Halimi, parlaient même de tchador. Se tromper sur le vocabulaire a eu deux conséquences. D'abord, parler de tchador a décrédibilisé la parole de ceux qui nommaient le voile de cette façon auprès du public concerné. Le tchador, c'est le voile iranien de l'islam chiite. Ce n'est pas le voile de l'islam sunnite qui est ultra majoritaire, voire quasi le seul, au Maghreb, en Turquie et au Moyen-Orient. Il n'y a aucun tchador, il n'y a jamais eu de tchador en France. Il y a des hijabs, des djilbab, des niqabs, mais il n'y a pas de tchador et il n'y a pas de burqa non plus. Ça, c'est l'Afghanistan. Donc, quand on a parlé de tchador à l'époque, ça a disqualifié, moi je m'en souviens, ça a disqualifié systématiquement la personne qui s'exprimait. Dès que le mot tchador était prononcé, on pouvait même plus écouter ce qu'il y avait derrière. Donc, la sémantique, c'est important. Donc, parler de tchador disqualifie la personne, elle n'est plus audible. Parler de foulard aussi permettait aux Français, permet toujours aux Français de faire appel à l'inconscient culturel des foulards de nos grands-mères. Ça a permis d'occulter le sexisme et le patriarcat du voile tout autant que sa portée identitaire et politique. Le foulard et le voile n'ont absolument rien en commun. Rien. Par contre, sur le plan politique et sur le plan de la communication marketing, ça, c'est faire cette comparaison, remplacer le mot voile par foulard, ça, c'est super efficace. Ensuite, l'erreur sémantique a eu pour conséquence d'aller sur le mauvais terrain par rapport au voile, c'est-à-dire aller sur le terrain de la laïcité, puisque c'est qu'un simple voile et puisque ce serait religieux. Ben, ce terrain a été choisi par les islamistes plutôt que le véritable terrain qui est concerné, qui est celui de l'égalité des sexes. Sur le terrain de la laïcité, les islamistes ont toutes leurs chances. On l'a encore vu hier et aujourd'hui, j'ai fait quelques publications sur ce qui se passe à Strasbourg au sein du conseil municipal, on pourra en reparler. Par contre, si on allait sur le véritable terrain qui est concerné par le voile, qui est l'égalité des sexes, les islamistes n'ont aucune chance. Et c'est pour ça qu'ils se gardent bien d'y aller. Et c'est pour ça aussi qu'une certaine partie de la gauche préfère rester sur le terrain de la laïcité plutôt que sur le de l'égalité des sexes. Il faut que les gens qui demandent à ce que les élus plient, qui demandent des concessions, et que s'il y a refus, il y a chantage au racisme, il faut qu'ils voient que ces élus sont intransigeants. À partir du moment où ils voient qu'il y a des limites, à ce moment-là, il peut y avoir discussion. Mais toujours dans le cadre du respect de la loi et du principe de laïcité. Il faut casser la vision victimaire qui considère qu'accorder des privilèges religieux refusés à d'autres serait une forme de justice et qu'un traitement égalitaire serait, selon eux, une discrimination. Ça, c'est la stratégie victimaire. Et c'est ce que j'appelle la rhétorique d'inversion, qui est l'angle, qui était l'angle politique du CCIF, mais qui reste l'angle de l'islamisme politique et notamment d'Alliance citoyenne et d'autres associations qui jouent sur ce créneau. La loi confortant les valeurs républicaines amènera de bonnes choses. On pourra en discuter. Mais elle ne sera qu'un outil. L'objectif est que cette population fasse pleinement partie de la société française. Ça passe bien sûr par casser les ghettos et la lutte contre la précarité, contre les problèmes socio-économiques. Parce que l'origine, elle est là. Hein. Ce qu'on vit aujourd'hui, ce sont des conséquences. Mais elle passe aussi par le volet culturel, par l'adhésion aux valeurs de la République. L'assimilation de ces valeurs est aussi importante que l'intégration par l'emploi. Croire que l'un entraîne automatiquement l'autre et inversement, c'est une erreur. L'enjeu est de faire aimer la France, que tous les citoyens de confession et de culture musulmane se sentent pleinement appartenir à la nation, pour ne plus qu'ils ressentent le désir d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, pour ne plus céder aux sirènes islamistes qui leur présentent l'appartenance exclusive à la Oumma, c'est-à-dire la communauté musulmane supranationale, comme plus accueillante et rassurante que l'appartenance à la nation, pour que l'universalisme ne soit plus seulement une idée philosophique, mais qu'il soit réellement vécu. Voilà, je vous remercie.